Maghreb, Juliette Rangeval.
Bonjour, où partirez-vous en vacances si vous avez la chance de pouvoir partir? Quelle est votre destination de rêve en Afrique du Nord? Il y a bien sûr la locomotive marocaine, première destination touristique en Afrique, devant l'Égypte et l'Afrique du Sud, vantée partout sur les réseaux sociaux. Dans un esprit d'aventure et plus confidentiel, en Algérie, il y a l'immensité du Sahara sur les pas d'Isabelle Eberhardt. Et puis la Tunisie, plus connue pour ses immenses complexes hôteliers en bord de mer, qui cherche aujourd'hui à se diversifier. Nous irons à Gafsa, centre minier et économique important, qui veut miser entre autres sur son patrimoine historique pour attirer les touristes. Le Sahara l'a inspiré, l'a ensorcelé, comme elle l'écrit, loin des hommes, avec sa chaleur accablante et ses dunes. Isabelle Eberhardt, exploratrice et écrivaine, s'était établie à El Oued, la capitale du Souf, dans le nord-est du Sahara algérien. Aujourd'hui encore, plus d'un siècle après, elle reste indissociable de la ville aux mille coupoles. C'est un reportage de Keira Yaya.
Lors de notre passage à El Oued, impossible de ne pas aller à la rencontre de Abdelkader Mihi. 62 ans, retraité du secteur public, il a traduit presque tous les écrits d'Isabelle Eberhardt. L'occasion de revenir avec lui sur cette figure aussi libre que fascinante, à travers sa vie et ses mots.
Vous avez traduit les écrits de Isabelle Eberhardt ?
Oui, j'ai commencé à traduire il y a une vingtaine d'années. Tout d'abord, j'ai traduit tous les textes qu'Isabelle Eberhardt a écrits sur le Souf. Parce qu'elle a séjourné à El Oued entre 1900 et 1901, pendant 7 mois. Et moi, j'ai traduit tous les écrits qu'elle a faits sur El Oued. Ses notes de route, ses journaliers, ses correspondances et les autres récits. Parce que Isabelle n'a pas écrit de livre. Isabelle a écrit des textes. Et donc, moi, j'ai rassemblé ces textes et je les ai édités dans un livre. Ça met tout. En arabe, « Aoudat al-Ashq al-Manfi », le retour de l'amoureux exilé même. Et ça a eu un bon écho chez les gens, ce qui m'a poussé à continuer à traduire Isabelle.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans un premier temps dans ces textes?
Avant de lire déjà, j'étais attiré par Isabelle. Pourquoi? Parce que les touristes qui venaient dans les années 70, j'étais tout jeune, j'avais 17-18 ans, et quand ils venaient ici, ils venaient par car, ils venaient par Land Rover, ils venaient par moto. Et la première chose qu'ils demandaient, c'est Isabelle habitait où? Ils demandaient aussi à voir le coucher de soleil, parce qu'Isabelle a chanté le coucher de soleil à El Oued. Et donc, voilà, déjà, j'étais prédisposé à traduire Isabelle. Puis quand j'ai lu les textes, c'était vraiment fantastique quand elle parlait d'El Oued.
Ainsi, ma première arrivée à El Oued, il y a 2 ans, fut pour moi une révélation complète, définitive, de ce pays âpre et splendide qui est le Souf. De sa beauté particulière, de son immense tristesse aussi. C'est ici une partie de nombreux écrits d'Isabelle Eberhardt sur la ville d'El Oued.
Maintenant, j'ai traduit pratiquement l'œuvre complète d'Isabelle.
Donc vous êtes passionné par son passage ici, par ce qu'elle a pu apporter à la région et aussi à ce que la région lui a apporté?
Bien sûr, Isabelle, quand elle est venue pour la première fois, elle était montée sur une dune. Elle a écrit une nouvelle qu'elle a appelée le Maghreb. Le Maghreb veut dire 2 choses. Le crépuscule, il veut dire aussi l'heure de la prière du soir. Les gens, quand ils lisent cette nouvelle, ils sont impressionnés par la description d'Isabelle du coucher de soleil. Mais elle a décrit autre chose. Elle a décrit l'instant. Elle était persona non grata dans le sud algérien. Sa façon de vivre, sa façon de s'habiller, aussi ses amitiés avec les Arabes et tout ça, il ne voulait pas ça, c'est normal. Parce qu'elle habitait un quartier indigène, mon quartier, à Ouled Ahmed. Moi, j'ai suivi son itinéraire depuis qu'elle est venue en Algérie jusqu'à sa mort à Ain Safra. Mort prématurée, bien sûr, parce qu'elle n'avait que 27 ans. Il y avait la crue d'Oued Safra. Et elle était en dehors de la maison. Quand l'eau a commencé à envahir l'Oued, elle était rentrée pour prendre ses écrits, parce qu'elle avait ses papiers dans un sac. Après la crue, et ils ont commencé à chercher Isabelle et l'ont trouvée recroquevillée sur ses écrits. Sous l'ombre chaude de l'islam. C'est le livre le plus connu d'Isabelle Huppert, Sous l'ombre chaude de l'islam. Nous, on considère Isabelle Huppert comme étant, faisant partie de notre patrimoine culturel. Parce qu'elle a parlé d'Elwed avec un amour vraiment fantastique. Elle a décrit notre région, partie par partie, de Débila à Elwed, à Guémar. Et elle est partie obligée de partir d'Elwed. Elle aurait voulu dormir le dernier sommeil chez nous. C'est dommage.
Dis-lui que tu dois absolument faire au Maroc une fois dans ta vie.
Bonjour, bienvenue dans ma villa de rêve, Fermont Tarazout B.
Le Maroc en 2024, c'était près de 17 millions et demi de visiteurs et des ambitions affichées de 30 millions de touristes en 2030, année pendant laquelle le royaume accueillera la Coupe du monde de football. Il faudra pour cela améliorer les infrastructures existantes, accentuer les actions de formation. Mais d'ores et déjà, ce poids lourd du secteur s'emploie à diversifier ses marchés. Il cible une nouvelle clientèle en Europe de l'Est, en Amérique du Nord ou dans certains pays d'Asie. Et pour cela, les réseaux sociaux sont un atout indéniable. Nous en parlons avec Rita Touzani, cette Marocaine à la tête de sa propre agence Global Event Marocco et agent de voyage depuis 35 ans.
Aujourd'hui, on doit s'adapter à ce nouveau mode de consommation du voyage. L'intelligence artificielle, les blogueurs, les travel blogs, les influenceurs qui amènent leur lot de nouveautés, de créativité. Ils deviennent nos ambassadeurs quelque part. C'est un nouveau moyen de communication sur les réseaux sociaux qui est à encourager.
Le Maroc aujourd'hui, c'est la première destination africaine pour le tourisme. Comment est-ce qu'on se développe encore ? Vers quelle destination ? Le tourisme de luxe, les villes comme Fès ou Ouarzazate qui sont des villes déjà très touristiques mais qui peuvent être remises de nouveau sur le devant de la scène ?
Votre question est vraiment d'actualité, Juliette, parce que au niveau du ministère du Tourisme et de l'Office national marocain du tourisme, actuellement, deux campagnes sont sur les réseaux sociaux et sont en ligne, c'est sur Fès et sur Ouarzazate. On essaye de montrer le potentiel de toutes les destinations marocaines. En effet, notre tête de gondole, c'est Marrakech, bien évidemment, mais on ne peut pas utiliser les mêmes recettes pour chaque ville ou chaque région du Maroc. Donc actuellement, on essaye d'encourager la consommation des destinations telles que Fès et Meknès, qui est aussi une destination extraordinaire. Elle fait partie des villes impériales du Maroc à visiter. Et on essaye aussi de leur donner leur chance en termes de visibilité et de communication.
Ce n'est pas le même public que le public qui vient à Marrakech, malgré tout.
Non, absolument pas. Le tourisme de Marrakech, c'est un tourisme d'abord de city break. C'est du tourisme de luxe. Marrakech restant une destination très upscale, très au-dessus du panier. Le tourisme du sud du Maroc, c'est plutôt de l'exploration. C'est le tourisme du voyageur, de celui qui veut rentrer dans l'immersion, avoir une expérience de désert, de la nature. La nature est souveraine dans les régions du sud. On est dans un autre tourisme. Et il y a aussi un tourisme culturel du moment où Ouarzazate abrite les plus grands studios de cinéma du Maroc. Et nous sommes numéro un pour les péplums et tous les films à thème un peu biblique parce que nous avons des décors naturels et une lumière extraordinaire qu'un grand réalisateur américain avait découvert déjà dans les années 50.
Est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc se tourne aussi vers des touristes africains ? Et quel type de touristes espère-t-il accueillir dans ce public-là ?
Actuellement, nous lançons une campagne qui s'appelle Ntlaqaou f Bledi, qui veut dire « Rendez-vous dans notre pays ». Alors, c'est un slogan qui parle de tourisme national, mais aussi des Marocains du monde. On se donne rendez-vous dans notre pays. Nous avons une politique panafricaine, comme vous le savez, et nous avons une politique sud-sud. Et l'Afrique étant véritablement un grand potentiel dans les années futures, aujourd'hui, c'est une démographie qui est dynamique. Vous savez que pratiquement 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Ils ont une croissance rapide, des moyens et des ressources minières très intéressantes. Oui, notre relation avec le tourisme africain est très importante et nous espérons pouvoir les amener eux aussi vers nous. Nous partageons la francophonie et aussi la langue anglaise, parce qu'on se tourne aussi vers la langue anglaise. Nous avons la même culture et nous partageons en grande majorité la même religion. Donc pour nous, le touriste africain est une cible presque facile à rapporter vers nous.
Cette année, il va y avoir la CAN de football qui va se tenir au Maroc. Mmh. Donc j'imagine que ça, c'est une façon aussi d'attirer des touristes venus du continent africain. Et puis, en 2030, il y a le mondial de foot. Et là, les chiffres qui sont annoncés par l'industrie du tourisme marocain sont considérables, avec un objectif de 30 millions de touristes à l'horizon 2030. Le Maroc, c'est 37 millions d'habitants. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surchauffe?
Alors, j'aimerais vous rappeler vos chiffres. En France, vous avez une population de 68 millions d'habitants avec une fréquentation touristique qui dépasse les 90 millions. Donc, vous avez réussi à gérer cette surchauffe. Je pense qu'on y arrivera aussi. Vous savez, depuis le Qatar 2022 et la prestation de l'équipe nationale marocaine pendant le mondial de 2022, ça a été la plus grande vitrine pour le Maroc. C'était vraiment incroyable. Le retour s'est fait immédiatement. Des gens qui étaient au fin fond du Japon se mettaient à googler pour découvrir le Maroc parce que c'était une prestation complètement inattendue de notre équipe nationale. Donc, on ne peut que se réjouir d'être les organisateurs de la CAN. Et justement, nous allons pouvoir toucher du doigt cet échange sud-sud et cette politique panafricaine et voir comment vont réagir les supporters africains. Et on les recevra avec beaucoup de plaisir dans une organisation parfaite. Maintenant, le risque de 2030, ce n'est pas la surchauffe parce que les touristes ne stationnent pas ad vitam aeternam. C'est pour ça qu'on parle de saisonnalité. Mais ça va nous challenger et on va pouvoir mettre en place des structures d'accueil originales. Vous savez qu'il y a des grandes plateformes qui proposent des alternatives à l'hôtellerie. On devra être sur tous les fronts. Moi, je n'ai pas peur de la fréquentation touristique parce qu'elle va être diluée sur l'année. Moi, je pense plus aux besoins en ressources humaines. Pour l'organisation de la Coupe du Monde, on aurait besoin éventuellement de 40 000, voire 50 000 jeunes volontaires pour encadrer cette Coupe du Monde. À côté de ça, elle sera pourvoyeuse d'emplois. On estime à 200 000, 300 000 emplois sur cet événement sportif. On va dire wait and see, mais nous allons certainement voir comment ça s'est fait dans les autres pays comme le vôtre. L'Espagne aussi, qui a une population inférieure à ses entrées touristiques. La Turquie aussi, qui a un très fort potentiel touristique. Je suis sûre qu'on apprendra de tout le monde. Hein. On n'y est pas encore, mais on s'y apprête.
En Tunisie, le ministère du Tourisme table sur 11 millions de visiteurs cette année. Ce sont des chiffres proches de ceux de la période d'avant la Révolution. Tourisme balnéaire essentiellement, mais le pays essaye aussi de repenser son modèle touristique en misant sur des régions méconnues. Rendez-vous à Gafsa, centre économique du sud tunisien, ville minière plus connu pour l'extraction du phosphate que pour ses attraits touristiques. À l'occasion de 3 journées d'études organisées par les experts du secteur, c'est un reportage de Lilia Blaise.
Symbole de ce renouveau, la remise en marche du Lézard Rouge, un train touristique qui relie Gafsa à Tozeur, en passant par les gorges de Selja, les canyons et les chemins empruntés par les miniers sous le protectorat français. Datant de plus d'un siècle, il n'avait pas repris du service depuis 2017. Ici, les tons jaunes et ocre des murs et la chaîne de montagnes forment un paysage aride. Et les premières traces d'activité humaine datent de la civilisation capsienne, vieille de 8500 ans. C'est ce qu'explique Mandeur Brahmi, conservateur du musée archéologique de la ville, au cœur de la médina de Gafsa.
C'est une civilisation préhistorique qui a ses particularités, surtout dans le façonnage des outils lithiques. Le silex, le principal outil de l'homme capcien, cette civilisation, elle prenait son nom du nom antique de la ville de Gafsa, Gafsa l'ancienne, Gafsa la moderne, aujourd'hui elle est appelée Gafsa, mais le nom antique c'est Gafsa.
Au carrefour de la frontière algérienne et du sud tunisien, cette région de plus de 300 000 habitants conserve aussi des traces de l'Empire romain, de batailles vandales, d'une enceinte byzantine, de la conquête arabe et du protectorat français. Elle a même été le théâtre d'une bataille lors de la Seconde Guerre mondiale entre les Alliés et les Allemands. Mais malgré cette riche histoire, la ville n'a été connue jusqu'à présent que pour sa production de phosphate, un atout économique important pour le pays.
Est-ce que par exemple dans ce musée, vous avez des touristes étrangers ou c'est en général plutôt des curieux qui découvrent ?
C'est occasionnellement ou saisonnièrement surtout. Les étrangers parfois, ils visitent le musée, mais il y a toujours des Tunisiens qui viennent pendant les vacances du printemps par exemple. Donc Gafsa peut être considérée comme le seuil du désert. Pendant tous les âges, elle assurait la jonction entre le nord et le sud, par exemple, de la Tunisie et le domaine saharien plus au sud. Donc son patrimoine est varié et riche. On a parlé de la civilisation capcienne, on a parlé de la civilisation romaine aussi. Il y a d'autres monuments qui sont encore conservés dans la médina. Ce sont les mosquées, par exemple, et les demeures. Ce patrimoine mérite aujourd'hui d'être valorisé pour qu'il soit connu par tout le monde.
Valoriser Gafsa et en faire une destination touristique, c'est tout l'enjeu pour les professionnels du tourisme venus de Tunis à la rencontre des Gafsiens. Et pour bâtir une offre touristique à partir du patrimoine, ils pourraient s'appuyer par exemple sur les bassins romains qui font face au musée archéologique. Ces bassins servaient auparavant à irriguer l'oasis locale, mais leurs canaux ne fonctionnaient plus. Désormais, ils sont remplis d'eau plusieurs fois par an pour le plus grand bonheur des enfants de la ville. Hatem Zitouni est le président de l'association de sauvegarde de la Médina. Il regarde avec joie les piscines, de nouveau utilisées.
Ces piscines romaines datent du 2e siècle avant Jésus-Christ. C'est un don d'un citoyen romain pour Neptune et pour la communauté oasienne. Tous ces gens que vous voyez ici, ils sont en train de se comporter comme leurs ancêtres.
En plus de son patrimoine, la ville mise sur ses sources d'eau chaude et sur ses montagnes. Loin de la pollution due au phosphate, le médecin Taoufik Khalfala, ancien gouverneur de la ville, a abandonné la politique pour ouvrir il y a 3 ans un établissement, le Gafsa Thermal Oasis, dédié aux cures thermales et à la sablothérapie.
C'est avec le sable du désert. On l'amène de Châtel-Jérid. Et c'est très fin, les sables sont très riches en silice, en silicium, en quartz et surtout en plancton. Et on laisse fermenter avec l'eau thermale pour qu'elle soit riche avec les sels minéraux. Et ensuite, on enveloppe le jaune jusqu'au cou.
Taoufik Khalfala vise la clientèle locale mais aussi internationale. Un pari de taille dans un pays qui a longtemps privilégié la thalassothérapie malgré ses 150 sources d'eau chaude de montagne.
À 30% de la clientèle, c'est d'ici. 10% l'Algérie, 10% la Libye et 10% la diaspora tunisienne chez vous et des étrangers, surtout la France, l'Italie, l'Allemagne et le Canada.
Destination Gafsa, bien-être, histoire et patrimoine. Pour les artisans de la ville qui pratiquent le tissage du tapis traditionnel ou qui se sont spécialisés dans les produits du terroir, un changement semble s'amorcer. Sur son stand de la foire de l'artisanat, Ahlem Belola dispose des flacons d'huile de romarin, d'eau florale, ainsi que des pots d'olive, de miel et de harissa fait maison. Elle vend ses produits depuis 3 ans.
Moi, j'étais femme au foyer. Je faisais ça pour la famille. Mais depuis 3 ans, le ministère de l'Agriculture nous encourage à suivre des formations pour certifier et vendre nos produits. Pour l'instant, j'arrive à vendre, mais surtout grâce aux foires.
Il faudra encore du temps pour que le rêve devienne réalité, mais la ville désire renaître après des décennies marquées par la pollution de la mine, les révoltes contre les mauvaises conditions de travail et la crise du secteur du phosphate.
Carrefour du Maghreb à la réalisation, Françoise Grelot, à bientôt.